France Inter.
France Inter, le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Un jour dans le monde, c'est un jour entre Israël et les États-Unis ce soir.
The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention.
Et l'abstention, c'est celle des États-Unis et c'est ça qui a fait bouger beaucoup de lignes depuis ces 24 dernières heures. Bonsoir Denis Charby.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël. C'est peu dire, Monsieur Charby, que les relations entre Benjamin Netanyahou sont aussi tendues que possible depuis ce refus de veto américain, si je puis dire, aux Nations Unies. Benjamin Netanyahou, pour l'instant, il joue sa coalition contre les États-Unis. En tout cas, c'est ce qui semble. Est-ce qu'il a la main dans ce bras de fer-là? Qui a la main exactement?
Je pense qu'il est persuadé, lui, qu'il a la main, parce qu'il sait qu'il y a des élections présidentielles au mois de novembre et qu'il n'imagine pas une seconde que Biden puisse lâcher Israël, parce que ce serait fournir à Donald Trump un argument en or pour gagner les élections en prétextant que Biden a trahi Israël. Et donc, il joue son va-tout, c'est vrai qu'il va très fort, il fait des déclarations tonitruantes pour dire qu'il ne se laissera pas dicter sa politique, il joue la carte de l'indépendance, la carte de la fierté nationale, et il le fait en bravant les Américains, si ce n'est que aujourd'hui c'est Biden, c'est pas Obama. Avec Obama, c'était très facile pour Benjamin Netanyahou de s'opposer à lui publiquement, d'aller le défier. Eh bien, il continue sur cette même ligne. Alors, il ne va pas au Congrès aujourd'hui, mais d'une certaine manière, il est non grata aux États-Unis. Mais il décide, par exemple, de ne pas envoyer une délégation diplomatique israélienne qui devait se rendre aux États-Unis, alors qu'il s'était mis d'accord là-dessus.
Et en même temps, il y a une part de réalité, Denis Charby, parce que Netanyahou, certes, vous l'avez dit, défie les Américains. Il leur dit même, nous n'avons pas besoin de vous. La réalité, c'est que sans les armes américaines, Israël est nu, mais que pour l'instant, les Américains n'ont pas coupé ces vivres-là. Ils n'ont pas été jusque-là.
Effectivement, je dirais le pari, c'est encore une fois la perspective électorale qui fait que Biden n'a pas les mains complètement libres, mais il n'a plus peur aujourd'hui d'afficher publiquement, alors que la méthode Biden jusque-là, depuis le mois d'octobre, avait toujours été de garder un soutien public de manière très claire et en coulisses, dans les antichambres, dans les discussions privées auxquelles nous ne sommes pas exposés, eh bien de dire ce qu'il avait à dire à Netanyahou. Eh bien voilà, Biden, et c'est pas la première fois, Blinken l'a fait avant, Kamala Harris également, eh bien décide de hausser le ton et c'est une sorte de bras de fer dont on se demande comment elle va se terminer, et il n'est pas sûr qu'elle tourne à l'avantage de Netanyahou, dans la mesure où dans l'opinion publique israélienne, on est partagé. Certains disent l'indépendance avant tout, et d'autres disent, attention, on ne peut pas, à cause de cette dépendance que cette guerre justement a révélée, on se croyait une superpuissance, ou en tout cas une puissance régionale, on s'est rendu compte qu'on est très dépendant des États-Unis, et certains pensent en Israël, et notamment dans sa coalition, enfin ceux qui l'ont, le parti d'opposition qui l'a rejoint, que c'est joué avec le feu.
Alors, on va y venir à l'opinion publique américaine. Denis Charby, ce matin, en lisant la presse française, en lisant Libération, pour tout vous dire, ils ont exhumé cette phrase de Moshe Dayan qui date de 67 et qui dit ceci: Nos amis américains nous donnent des armes, de l'argent et des conseils. Nous prenons les armes et l'argent, nous déclinons les conseils. Est-ce que cette phrase pourrait s'appliquer jusque-là? Est-ce qu'elle s'applique encore? Est-ce qu'au contraire, c'est maintenant que cette phrase ne tient plus, alors qu'elle tenait effectivement depuis 1967?
Je dirais, pour peut-être prendre un peu de recul par rapport à ce qu'a dit Moshe Dayan, que des conseils, on en a pris, mais c'était pas des ordres. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça devient une partie si tendue les Américains n'hésitent pas à donner des ordres. Ils l'ont déjà fait dans le passé, hein, en 1992, en 1956. 1956, ça remonte à loin. Eisenhower avait dicté aux Israéliens le devoir de quitter le Sinaï. En 1992, c'est Yitzhak Shamir qui avait reçu la douche froide. C'est peut-être aujourd'hui vers quoi on s'achemine, à ceci près que nous allons assister à un clivage très... très tendu entre, une fois de plus, deux parties de la population israélienne, les uns qui s'inquiètent de cet aventurisme politique et les autres qui diraient, puisque nous sommes en France, qui diraient qu'il y a quelque chose de très gaulliste dans cette attitude de Netanyahou, qui estime que l'intérêt supérieur d'Israël est l'affaire des Israéliens. On peut donner des conseils, pas des ordres.
Mais ceux qui s'inquiètent de l'aventurisme, comme vous dites, Denis Charby, s'inquiètent-ils au point de réfléchir eux aussi à l'idée que peut-être il faut effectivement un cessez-le-feu et il faut que ce soit un cessez-le-feu durable, ou est-ce qu'il y a cette espèce d'ambiguïté d'ambiguïté et même peut-être de lutte interne à l'intérieur de la société israélienne. Bien sûr qu'il faut faire attention, parce que si on perd les Américains et qu'on perd les armes, c'est très dangereux pour nous. Mais de là à pousser un cessez-le-feu, il y a quand même un sacré pas à franchir, non ?
Oui, il y a une très grande ambiguïté, même dans le camp de ceux qui s'opposent ou qui s'inquiètent de ce tournant, enfin de cette attitude que prend Netanyahou publiquement contre Biden et son administration. Pourquoi une ambiguïté ? Bah parce que, qu'est-ce que dit Netanyahou ? Il dit, sur le terrain, nous pouvons gagner la guerre. Or, c'est, je dirais, il comprend, je dirais, la logique de la guerre de guérilla. Dans une guerre de guérilla, tant que le Hamas, en l'occurrence, n'a pas perdu la guerre, il la gagne. Et tant qu'on n'a pas, par une défaite qu'on aurait imposée de manière très claire à l'ennemi, eh bien, on a perdu. Et c'est cela, et c'est ça qui fait que les Israéliens hésitent vis-à-vis d'un cessez-le-feu, parce que pour eux, un cessez-le-feu, cela veut dire maintenir le Hamas, fut-il affaibli, et ça veut dire surtout que la perspective de la paix qui anime le camp d'en face, le camp opposé à Netanyahou, eh bien, pourra difficilement exiger de la société israélienne qu'elle s'ouvre à la paix si le Hamas est encore présent. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de paradoxes, et c'est ce qui fait que l'opposition n'est pas unie contre Netanyahou, mais elle critique ce tournant diplomatique qu'il prend.
On va aller en Israël dans un petit instant, mais avant d'y aller, une autre question pour vous, Denis Charbi. Ce que les Américains essayent de dire aux Israéliens, en tout cas Blinken l'a encore fait récemment, c'est qu'Israël est en train d'abîmer durablement son image, voire pour plusieurs années, plusieurs générations, en leur disant c'est une erreur de ne pas en tenir compte. Moi, je me demandais si cet argument-là avait réellement du sens aux yeux des Israéliens. Vous nous avez expliqué ici même que l'état de traumatisme de la société israélienne depuis le 7 octobre était encore là. Est-ce que cet argument-là, il a du sens et il a du poids ?
Il a du sens et il a du poids. Il a du sens et il a du poids quand bien même l'autre partie le traumatise, on est seul souverain à décider et à déterminer. Mais quand on est aussi dans le traumatisme, on comprend quelque chose qui est capital dans l'histoire d'Israël depuis sa création. Israël ne s'est pas fait seul. Israël a besoin d'un appui diplomatique, a besoin d'un allié. Ça pouvait être les Soviétiques, ça pouvait être la France, c'est les États-Unis depuis un demi-siècle, et c'est très risqué pour Israël, c'est ce que pensent beaucoup d'Israéliens, que de braver les Américains. Mais c'est vrai que dans l'opinion, ça ne passe pas bien, parce qu'on a le sentiment que si on n'est pas compris, ce n'est pas parce que nous avons tort, mais parce que nous avons raison, et que cela fait partie de la destinée d'Israël, la destinée du peuple juif depuis 2000 ans. Alors, c'est très difficile de s'opposer à ce type d'argument.
Denis Charbi, restez avec nous. Il y a un autre point qui est important, c'est que la coalition, on l'a bien compris, et vous nous l'avez expliqué, ne tient que sur un fil pour l'instant, c'est compliqué, elle tient sur les ultra-religieux. Or, il faudra très bientôt statuer sur une question qui met cette coalition en danger et qui secoue l'ensemble de la société israélienne, c'est l'exemption de l'armée des ultra-religieux. Il y a une date limite, elle est pour le 1er avril, donc c'est lundi prochain, c'est demain. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Notre correspondant à Jérusalem, Thibault, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est un sujet récurrent depuis des décennies. Mais là, nous sommes dans une guerre qui dure, dans la plus longue même qu'ait connue Israël. La question, elle est plus brillante que jamais. Et elle touche l'ensemble de la société.
Oui, clairement, vous l'avez résumé, hein, le compte à rebours est lancé. Le gouvernement a donc jusqu'à lundi prochain, le 1er avril, pour proposer une loi qui encadre les règles d'exemption des hommes ultra-orthodoxes. Ordre de la Cour suprême, vous savez, la Cour suprême, c'est la plus haute juridiction du pays. Et s'il n'y arrive pas, eh bien, tous les religieux pourraient être enrôlés de force, s'il le faut, à partir du 1er juillet prochain. Alors évidemment, grosse colère des Haredim, c'est le nom qu'on donne ici aux ultra-orthodoxes, avec depuis quelques semaines des manifestations très violentes à Jérusalem. Colère aussi des plus progressistes, et notamment de tous ceux qui servent sous les drapeaux depuis le 7 octobre, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie occupée ou à la frontière nord, à la frontière du Liban. Ils ont tous abandonné un travail, certains ont abandonné une entreprise, ils se sont éloignés de leurs proches, ils risquent leur vie au quotidien. Avec la guerre, l'armée israélienne, évidemment, eh bien, elle a besoin de soldats, 7000 environ, ce sont les dernières évaluations du ministère de la Défense. Alors, le nombre de jours de réserve a été multiplié par 3, la durée du service militaire a été allongée de 4 mois. Ceux qui combattent sont donc mobilisés plus longtemps, alors que les exemptés ne sont pas sollicités. Et vous l'avez compris, avec une guerre, un conflit qui s'enlise, eh bien ces inégalités sont devenues insupportables.
Thibault, on était là avec Denis Charbi dans l'état de la société israélienne aujourd'hui. Je me demandais jusqu'à quel quel point, on posera la question à Denis Charby juste après vous, jusqu'à quel point ça la faisait tanguer, et même jusqu'à quel point ça faisait de toute façon tanguer, voire exploser la coalition, ce sujet-là précisément.
Oui, la coalition est à la fois fragile et solide parce qu'il y a une interdépendance de chacun des partis de cette coalition. Chacun a un intérêt à rester au gouvernement, mais c'est évidemment une équation insoluble hein, qui se pose là avec cette question sur les ultra-orthodoxes et leur participation dans l'effort de guerre, parce qu'il faut à la fois trouver de nouvelles règles d'exemption qui répondent au souci d'égalité qui est imposé par la Cour suprême, sans pour autant froisser ces partis ultra-orthodoxes qui tiennent, ils ont 18 députés, hein, ils tiennent avec leurs 18 députés la coalition de Benjamin Netanyahou, et c'est donc un bras de fer qui est engagé depuis plusieurs semaines. Alors, les religieux, faut bien comprendre qu'ils n'ont pas nécessairement intérêt hein, à quitter le gouvernement, parce qu'ils pourraient perdre énormément d'avantages, des avantages qui leur ont été concédés, beaucoup par les partis de droite, aussi par Yitzhak Rabin notamment, plus à gauche, des avantages qui ont été concédés depuis plusieurs années, par exemple l'accès gratuit aux crèches pour les étudiants des yeshivot. Vous savez, les yeshivot, ce sont ces écoles religieuses. Alors aujourd'hui, il faut savoir que des ultra-orthodoxes combattent malgré tout dans l'armée. Certains, très peu, par conviction, ou d'autres parce qu'ils ont rompu avec leur milieu d'origine. La loi impose d'en mobiliser un peu plus d'un millier par an. Ils sont réunis dans les mêmes bataillons, ils sont payés plus que les autres, et les règles de vie en communauté sont adaptées. Ils ne croisent pas de femmes, par exemple, pas de mélange, donc. Vous savez, Fabienne, ici, en Israël, l'armée est appelée Tsahal. Tsahal, ça veut dire l'armée du peuple. Et plus que l'enjeu politique à court terme, c'est donc la cohésion de cette armée du peuple et plus globalement de la société qui est aujourd'hui menacée par le séparatisme.
Merci à vous, Thibault Lefèvre. Merci. Vraiment, c'est là-dessus que je voudrais qu'on conclue. Denis Charby, vous êtes bien placé pour savoir que chaque Israélien aujourd'hui a un fils ou plusieurs ou fille qui combat en ce moment dans la guerre contre le Hamas. Est-ce que ce genre de sujet, et comme le disait Thibault, est de nature non seulement à secouer la coalition, mais secouer aussi la société israélienne dans ce niveau de difficulté et même d'ambiguïté que vous décriviez tout à l'heure et qui est la sienne aujourd'hui.
Alors, vous savez, après le clivage israélo-palestinien, le plus grand clivage qui divise Israël, et on l'avait déjà vu l'année 2023, c'est le clivage entre religieux et non-religieux. Pas parce que les uns croient au ciel et que les autres n'y croient pas, mais parce que, en fonction de votre croyance, et ça concerne les orthodoxes, ça ne concerne pas ce qu'on appelle les sionistes religieux qui, eux, font leur service militaire, eh bien, c'est trop d'exemptions qui leur ont été accordées, trop de privilèges qui leur ont été accordés. Il faut le dire, avant le 7 octobre, le projet de loi qui était posé sur la table était celui de l'exemption définitive, alors que jusqu'à présent, ils bénéficiaient d'un sursis, et après ce sursis, on les dispensait du service. Et bien entendu que la guerre a tout gâché en quelque sorte, puisque bien entendu qu'aujourd'hui, venir réclamer au moment même où toutes les familles laïques et les familles sionistes religieuses se voient obligées d'envoyer leurs enfants pour 3 ans et non plus pour 2 ans et 8 mois, bien sûr que cette inégalité, ce privilège-là apparaît comme une injustice. Et c'est pour ça que le gouvernement israélien pourrait tomber. On voit d'ailleurs le ministre de la Défense qui fait partie de cette même coalition, qui est du Likoud, et qui dit « Moi, je ne peux pas voter un projet qui laisse de côté les orthodoxes. » Donc voilà un deuxième clivage. Ce serait l'ironie de l'histoire si ce gouvernement tombait non pas à cause de la guerre, mais à cause de ce projet de loi.
Et c'est passionnant. Denis Charby, professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Irak où on donne 3000 euros à ceux qui acceptent de quitter les camps où ils sont restés malgré le départ de Daesh pour pouvoir rentrer chez eux. La bande habituelle qui nous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Kevin Dufraîche.
Au Malawi où la sécheresse provoquée par El Niño ravage les cultures.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon, bonsoir Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. Au Sénégal, élection d'un candidat anti-système qui a souvent eu la dent dure avec la France et pourtant Paris se félicite du scrutin, on verra pourquoi.
Caroline au pays des 27, salut
Caroline. Bonsoir, bonsoir. Oui, on est avec Aline Decati, notre correspondante spéciale aéronautique à Kourou, c'est chic. C'est le 4e épisode avec cet ingénieur qui travaille à la conception d'Ariane 6. Macron est à Kourou aujourd'hui pour lui rendre visite.
Voilà, c'est un peu une vieille connaissance de Caroline au pays maintenant. Des 27. Absolument, à tout de suite, tout le monde, ne partez pas trop loin. Nous faisons un rapide détour vers les États-Unis avec Jalen Ndonga, Illusions.
Each day when I awake, before the breath that's
C'est en Irak que nous allons, ici même, nous parlions hier de Daesh en Russie, ici en Irak, presque 10 ans après l'autoproclamation du califat. Daesh est territorialement vaincu, mais le pays reste profondément marqué par cette guerre. Des milliers d'Irakiens déplacés par les combats vivent encore sous des tentes dans un camp de la région kurde. Et pour les aider à rentrer, le gouvernement irakien leur propose une aide de 3000 euros, c'est à peu près une douzaine de SMIC, mais quand on n'a plus ni maison, ni terre, ni voiture, ni rien, c'est évidemment très compliqué. Le reste, c'est Théo Renaudon qui raconte.
Ici, Arbat, camp de déplacés, 8000 Irakiens vivent ici au pied des montagnes kurdes irakiennes. On voit une mer de tentes et d'abris faits de parpaings et de tôles. Ces familles ont pour la plupart été déplacées au début de la guerre contre Daesh. Salam alaikum.
Salam. Rahmatullah wa barakatuh.
Vous êtes là depuis 10 ans. Le gouvernement irakien là vous propose 3000 euros pour rentrer chez vous. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous motiver à faire cette démarche ?
Non, ça ne suffit pas. La plupart d'entre nous avons perdu des animaux, des voitures. Il n'y a rien pour aider les familles. 3000 euros, ça ne suffit pas pour reconstruire des maisons. Ça ne suffit pour rien du tout. Vous savez, on a tout laissé quand on est parti. On est venu ici les mains vides, on n'avait que nos vêtements.
Et ici, est-ce que vous avez des aides humanitaires ?
Oui, les ONG nous fournissent de l'eau gratuitement. On a aussi l'électricité, on nous aide à faire des travaux. Nous dormons confortablement. Le gouvernement irakien veut nous donner une grosse somme d'argent. Mais on dormirait sur la terre là d'où on vient.
Au-delà de l'argument économique, beaucoup d'Irakiens ici disent ne pas pouvoir retourner chez eux pour des raisons de sécurité. En fait, tous les membres de ce camp viennent du même endroit désertique en Irak. Ils font tous partie d'une tribu sunnite et certains ont des proches qui ont commis des crimes aux ordres de l'État islamique. Aujourd'hui, tous disent craindre des représailles en cas de retour, surtout de la part de milices chiites armées qui contrôlent désormais leurs anciens territoires.
Tout le monde a été affecté par Daesh, sunnites et chiites. Mais les chiites considèrent que ça vient de nous, les sunnites.
Oussam ne peut pas rentrer chez lui non plus à cause des milices chiites qui ont envahi la ville où il habitait, au nord de Bagdad.
Les chiites ont été déplacés vers le sud, nous les sunnites vers le nord. Mais ils affirment que l'État islamique est venu de chez nous, depuis le nord. Là d'où je viens, c'est une frontière sectaire entre tribus sunnites et chiites depuis 10 ans. Si on revient, il pourrait y avoir des représailles ou un conflit qui serait de retour également. Ça demanderait l'intervention du gouvernement irakien.
Mais pour Mélisande Jonas, ce discours est souvent exagéré. Mélisande, c'est une chercheuse, elle est docteur à l'université américaine de Stanford. Ça fait plus de 10 ans qu'elle habite en Irak et elle est l'auteur d'un rapport sur le camp d'Arbat pour l'ONU.
Il y a aussi une sorte d'inertie, ils sont entre eux, ça fait des années, ils veulent pas rentrer, c'est tout. C'est bien pratique comme ça. Quand ils expliquent qu'ils peuvent pas rentrer pour des questions de sécurité, c'était très vrai au moment de la libération, très certainement il y a eu des exécutions, il y a eu des disparitions, il y a eu une peur tout à fait justifiée. À l'heure actuelle, à part pour des raisons tribales où effectivement il y a un petit nombre de familles qui ne peuvent pas rentrer, et c'est ce qu'ils déclarent, mais ça n'est pas vrai en réalité.
Et donc quoi, les chiites ont pardonné à ces familles ? Pourquoi d'un coup ils peuvent revenir ?
Non mais ça va d'un coup, ça s'est fait très graduellement. En Irak en général, je dirais que c'est 50-50 à peu près. Il y a 50% qui peuvent vraiment pas rentrer, 50% c'est un peu compliqué, mais grosso modo, il y a des négociations, il y a peut-être un peu d'argent qui a été payé, ou alors il y a des formes de chantage, on leur prend un bout de terre ou quelque chose comme ça. Il y a quelques tensions, mais au fil du temps, ça s'apaise.
Le camp d'Arbat, ce dernier camp de déplacés irakiens, doit fermer dans 4 mois, c'est ce qu'ont décidé les Kurdes, et peu d'habitants savent où ils iront.
Théo Renaudot pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
I stand before you tonight to declare a state of disaster.
Et nous sommes d'abord au Malawi, où la sécheresse frappe très fort.
Tellement fort que le président Lazarus Chakwera, qu'on vient d'entendre, déclare l'état de catastrophe naturelle dans 23 des 28 régions du pays. Il y a un mois, c'est la Zambie voisine qui parlait d'une catastrophe nationale. Pour les mêmes raisons, c'est une conséquence d'El Niño, ce phénomène climatique qui se produit périodiquement, réchauffant l'ensemble des eaux du Pacifique, ce qui a des conséquences sur les précipitations partout dans le monde. Résultat au Malawi, depuis tardive, irrégulière, des inondations quand il pleut beaucoup d'un coup et une sécheresse prolongée qui tue les cultures. Près de la moitié du maïs cultivé dans le pays, par exemple, est endommagé. Le président malawite estime que son pays a besoin de 200 millions de dollars d'aide alimentaire pour faire face à cette situation. D'après l'ONU, 13 millions de personnes manquent de nourriture en Afrique australe.
Nous voici au Japon où éclate un scandale sanitaire.
Le scandale Kobayashi Pharmaceutical, du nom de cette société qui fabrique des compléments alimentaires disponibles sans ordonnance, des gélules qui pourraient être responsables de la mort d'une personne suite à des problèmes rénaux, et près de 80 personnes qui ont pris ces mêmes compléments sont actuellement à l'hôpital. Il s'agit en fait de riz fermenté à la levure, appelé Benikoji au Japon, censé être anti-cholestérol. Kobayashi a rappelé les compléments concernés en fin de semaine dernière et avoué aujourd'hui, je cite, un lien de causalité potentiel entre un décès et notre produit. Kobayashi qui reconnaît après analyse qu'il est possible que les produits en question contiennent des ingrédients qu'il n'avait pas l'intention d'inclure. C'est en tout cas ce que le groupe affirme via communiqué. L'entreprise a présenté des excuses publiques. Pour le moment, le gouvernement japonais se contente de demander aux fabricants de fournir plus d'explications.
Et puis nous voici en Australie, plus précisément dans les égouts de Brisbane.
Oui, c'est là qu'hier un homme a été retrouvé libéré par les pompiers après être resté coincé là durant 30 heures. Il avait de l'eau jusqu'aux genoux, quelques égratignures et surtout il était en état d'hypothermie. Rassurez-vous, désormais tout va mieux. Mais vous allez me demander, que faisait-il là ? Évidemment, comment s'est-il retrouvé coincé dans les égouts de Brisbane ? Eh bien, ce monsieur de 38 ans a expliqué que dans un premier temps, il avait fait tomber son téléphone et que c'est pour ça qu'il était entré par une bouche d'égout. Sauf que la réalité est un peu moins simple. En fait, dimanche soir, notre ami a percuté à plusieurs reprises un van de la police avec sa voiture. Il s'est alors fait la malle à pied et il s'est caché dans les égouts le temps que ça passe. En tout cas, c'est ce qu'il espérait, puisqu'au final, il s'est quand même fait avoir. Il aurait aussi pu dire qu'il jouait aux Tortues Ninja.
Allez, il a bon dos le portable, tiens. Kevin Dufresne, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Vous partez avec un détour par le Brésil avec Lucas Santana et Doudabit.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blam. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor.
Santana et Doudabit, le monde à 18h50 sur France Inter, c'est Franck Madvon.
Fabienne Sintès. Le 18-20.
Franck, le Sénégal a donc un nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye. Emmanuel Macron assure se réjouir de travailler avec lui. Ce soir, vous nous dites pourquoi la France se montre si confiante après la victoire de cet opposant anti-système.
Oui, on peut s'en étonner, mais la France ne montre ou ne trahit aucune déception après la victoire éclatante de Bassirou Diomaye Faye. Emmanuel Macron, en effet, le félicite sur le réseau social X. Tous mes voeux de réussite, en français et en wolof. L'Élysée ne cache pas sa satisfaction et même son soulagement. Première raison de se réjouir, la démocratie, c'est vrai, l'a emporté. Les dernières semaines, les derniers mois ont été très agités au Sénégal. Le président sortant, Macky Sall, avait déclenché une crise politique en reportant la présidentielle. Mais les institutions ont résisté. Le scrutin a bien eu lieu avant la fin du mandat, le 2 avril. Et 24 heures après le vote, Macky Sall a félicité le vainqueur, portant un farouche opposant. Une belle surprise démocratique dans une région constellée de coups d'État, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée. Le Sénégal reste un des rares modèles africains où l'alternance est décidée par le peuple. Oui, l'élu Diomaye Faye prône un changement radical, mais la démocratie, après tout, autorise un tel choix.
Et ses premières déclarations se veulent rassurantes.
Et c'est la deuxième explication de la satisfaction française. Il faudra juger ce président sur pièce. Pour le moment, Bassirou Diomaye Faye ne se montre pas très hostile à la France. Il assure que le Sénégal restera l'allié sûr et fiable de tous les partenaires respectueux de son pays. Il met en avant des priorités que Paris partage. Lutte contre la corruption, allègement du coût de la vie, réforme institutionnelle. La France a même une troisième raison de se féliciter de cette élection. La présidence Diomaye Faye peut lui offrir l'occasion de renouveler son partenariat avec un pays africain de manière apaisée. C'est presque un cas d'école pour Emmanuel Macron, qui promet d'en finir avec la France-Afrique sans pouvoir s'énorgueillir d'un exemple concret. L'Élysée se dit donc aujourd'hui ouvert aux réformes. La fin du franc CFA, eh bien pourquoi pas. La France envisage aussi la fermeture de sa base militaire au Sénégal. 350 soldats qui assurent essentiellement des missions de formation.
Mais alors l'élection de Diomaye Faye comporte quand même aussi des risques, Franck.
Mais oui, la France en est bien consciente. Bassirou Diomaye Faye était le numéro 2 de l'opposant Ousmane Sonko, interdit présidentiel par la justice. C'est le candidat du PASTEF, parti panafricaniste, souvent dur avec la France, qui prône la rupture et pourfend les élites. Le populisme n'est pas loin. Par ailleurs, ce nouveau président reste un inconnu. 10 jours avant l'élection, il était encore en prison pour avoir critiqué des magistrats. Il est encore jeune, 44 ans. Il a fêté son anniversaire hier, d'ailleurs. Un homme de l'ombre, tête pensante de son parti, ex-inspecteur des impôts, un musulman très pieux, salafiste, selon certains rivaux, ce qu'il dément. Diomaye Faye demeure en tout cas un mystère. On ne sait ni avec qui il va gouverner, ni quelle sera précisément son attitude à l'égard de la France. Il se montre ouvert à d'autres alliances. Il veut dialoguer avec les juntes au pouvoir au Sahel. Ne ferme pas la porte à la Russie. Après son élection, la France, en dépit de son histoire avec le Sénégal, devient au fond un partenaire comme un autre. À ce stade, elle veut y voir d'abord une opportunité.
Franck Madvon, tous les jours dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. Le mardi, Caroline Gillet frappe aux portes de l'Europe. C'est Caroline au pays des 27. Toc, toc, toc.
France Inter. Le 18-20.
Grâce à vous. Voilà.
Grâce en juin, on y arrive.
Oui, en juin, on va essayer d'y arriver. Peut-être même juillet. Grâce à vous, donc, on regarde de près celles et ceux qui travaillent de près ou de loin pour l'Union européenne, Caroline. Et on retrouve Aline Decadi. Elle est ingénieure. C'est elle qui œuvre à la fabrication du lanceur Ariane 6. C'est le 4e épisode avec elle, une vieille connaissance.
Oui, voilà. Et Macron est en Guyane, a couru aujourd'hui. Donc, pour une fois que je pouvais être dans l'actu, j'en profite. Car Aline nous envoie des notes vocales depuis septembre. On a suivi auprès d'elle les derniers essais qui ont été faits sur la maquette du lanceur depuis Kourou, où se trouve la base de lancement. Mais on débute cette chronique à Paris. Cette fois-ci, Aline est dans les bureaux de l'Agence spatiale européenne. Elle doit mettre à l'écrit les conclusions pour la sûreté du lanceur. Elle y travaillait déjà dans le dernier épisode, mais il y a une nouveauté.
Maintenant, on prépare la séquence de lancement avec toute la phase de la mission du lanceur en vol, avec des analyses de sa trajectoire, des analyses des fragments qui pourraient retomber. Donc il y a des fragments qui retombent quand on a la séparation des étages normalement. Et puis il y a aussi des fragments que l'on investigue, parce que si le lanceur devenait dangereux et qu'il faut le neutraliser, eh bien alors ces fragments retomberaient. Et donc c'est cela aussi que l'on analyse pour s'assurer qu'on ne peut pas retomber sur une zone habitée. Et donc, voilà, quelque part, mon job, c'est de parer au cas pire pour définir les couloirs de vol et les paramètres qui permettent aux populations de rester en sécurité, même dans un cas pire de destruction de lanceurs.
Cette partie du travail est essentielle pour obtenir l'autorisation de lancement et son aptitude au vol inaugural. Parfois, comme ici, je reprends des phrases techniques d'Aline et je m'impressionne toute seule en les lisant. Mais donc, en d'autres mots, Aline a rédigé beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents très importants.
On dit en aéronautique que lorsque le poids de la documentation elle atteint celle de l'avion, c'est qu'on est bon pour l'assertif. J'approche des 2000 pages d'analyse détaillée de 4 pannes en tout genre.
Bon, un lanceur, c'est 600 à 800 tonnes, donc Aline admet qu'elle n'y arrivera pas. Mais ces 2000 pages vont ensuite être lues par des experts et Aline a son grand oral face à eux demain. On vous dira comment ça s'est passé dans les prochaines chroniques avec elle. On espère qu'elle aura la certification et que le vol inaugural pourra se faire en juin. Pour rappel, Ariane 6 a déjà 4 ans de retard et pendant ce temps-là, SpaceX d'Elon Musk prend de l'avance. Alors faut pas le dire à Aline qui est déjà sous beaucoup de pression et d'ailleurs là elle repart à Kourou.
Là je suis dans l'avion à Paris Charles de Gaulle, on est dimanche. Merci. Et sinon, pour cette semaine-là, évidemment, il y a le travail quotidien sur Ariane 6, mais il y a aussi un événement qui me tient à cœur, parce que le vendredi, je vais donner un cours à des premières et terminales qui ont choisi pour leur bac l'option mécanique, aéronautique et spatiale. Alors pourquoi c'est si important et si fondamental? C'est parce que à la base, imagine-toi être un enfant ou une enfant qui est sur la plage à Kourou et qui voit des lancements pendant toute son enfance, qui donc rêve d'espace, mais n'a pas de formation qui soit accessible en local là-bas pour pouvoir un jour travailler sur la base. Je trouve ça terrible. Il y a quelques années, on avait réfléchi à ça en disant, il faut qu'on mette en place quelque chose.
De retour sur la base, il se passe deux choses importantes. La première.
Ça y est, on prépare la campagne du vol inaugural Ariane 6 et donc on laisse la place au vrai modèle de vol qui va arriver dans quelques semaines sur le Patia.
La maquette qui a permis de faire tous les essais était arrivée à Kourou en janvier 2022. Et voilà donc que deux ans après, ce 21 février 2024, les modules du corps central de la fusée Ariane 6 sont arrivés en Guyane à bord du Canopé, un cargo à voile très innovant sur le plan écologique. Et comme Emmanuel Macron le fait aujourd'hui, Aline est allée le visiter.
Là, je suis à côté d'une des ailes Ocean Wings. C'est un très très gros mécanisme de motorisation.
Les quatre voiles du canopé font 363 mètres de hauteur chacune. Elles permettent, en utilisant le vent, de réduire l'empreinte carbone. C'est le premier cargo de ce genre.
Il y a même des algorithmes qui contrôlent les ailes à distance pour justement trouver la meilleure position en fonction du vent, de la météorologie, qui permet de faire une traversée assez rapidement, parce que finalement, en une dizaine ou une douzaine de jours, il fait la traversée de l'Atlantique. Et je vais te faire écouter un petit peu le son que ça fait.
Alors, c'est bien de l'avoir envoyé, on n'entend pas grand-chose, on va le dire.
Non, j'ai pas osé lui dire pour pas la vexer, mais je pense que l'idée, c'est que ça fasse pas beaucoup de bruit.
Ok.
Merci à elle.
Donc c'est réussi.
Donc c'est réussi. Merci à elle et courage pour le grand oral demain.
Allez, merci à elle. Merci à vous, Caroline, au Pays des 27. Vous reviendrez mardi prochain dans le 18-20. Ça continue pour nous avec le journal de 19h et Hélène Philly dans un tout petit instant. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir, Christelle Robière.
Bonsoir.
Rédactrice en chef du 18-20. Christelle, ce soir, c'est Marc Fesneau qui est avec nous et avec vous au 01 45 24 7000.
Il y a un mois, Emmanuel Macron, chahuté au Salon de l'agriculture, avait fait des promesses aux agriculteurs très remontés. Par exemple, la poursuite de l'application de la loi Egalim avec des indicateurs de prix dans toutes les filières ou encore un plan de trésorerie d'urgence. Le projet de loi tant attendu avec sa soixantaine de mesures arrivera finalement mercredi prochain au Conseil des ministres. L'inquiétude est vive, les agriculteurs l'expriment sur l'adresse de notre émission. Éric est producteur de fruits dans les Alpes du Sud, il attend des réponses sur les pesticides, les pucerons, des détruisent ces vergers. À l'inverse, Stéphanie est révoltée par la mise en pause du plan Ecophyto. Un autre craint que les petites fermes soient rachetées au profit des grands groupes. Alors les pesticides, le stockage de l'eau, le soutien à l'élevage, la transmission des exploitations, les agriculteurs et les consommateurs attendent du concret ce soir.
01 45 24 7000 pour discuter donc avec Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. À tout de suite.